Merci Jessie, merci pour cette invitation. Je suis vraiment ravi d'être ici pour cette très belle journée d'études et cette très belle exposition également. Donc merci à tous les organisateurs, évidemment. Alors, donc je vais commencer en disant que comme le 28 décembre 1895 pour le cinématographe, le 17 août 1908 constitue une date symboliquement admise, enfin une date symbolique communément admise, pour marquer la naissance officielle du dessin animé à l'occasion de la première projection publique de Fantasmagorie d'Émile Cohl au théâtre du Gymnase à Paris. Cette datation inaugurale, proposée par un grand nombre d'ouvrages consacrés au cinéma d'animation, est pourtant, à mes yeux, doublement problématique. Le syntagme premier dessin animé, accolé au film inaugural de Cohl, appose en effet deux termes, premier et dessin animé, qui ne peuvent objectivement pas désigner le film concerné, ce qui témoigne d'une approche historique imprécise que nous souhaiterions réinterroger ici en recontextualisant l'œuvre du cinématographiste. Alors, je vais commencer par montrer quand même le remontrer Fantasmagorie. Je pense que vous l'avez tous vu à l'exposition, mais ça vaut le coup de se le remettre en tête puisque je vais en parler très très précisément, en particulier de deux passages. Donc, je vais le remontrer dans l'intégralité. Il n'est pas très long. Voilà. Alors, le simple fait de proposer une intervention qui s'intéresse à l'idée de trace ou de rémanence dans l'œuvre d'un metteur en scène considéré comme le premier de sa catégorie me semble déjà un peu révélateur en soi. De fait, Émile Cohl n'est pas le premier à animer des dessins à l'aide d'une caméra, puisqu'il est possible d'observer, avant Fantasmagorie, trois occurrences d'expériences similaires aux États-Unis, héritées de la série culturelle des Lighting Sketches, une pratique qui consiste en fait à tracer des dessins sur scène face à un public à la vitesse de l'éclair. Ces trois films, donc, ces trois premières expériences, The Enchanted Drawing en 1900, Humorous Faces of Funny Faces en 1906 et Lighting Sketches en 1907, sont réalisés sous l'impulsion de James Stuart Blackton, célèbre caricaturiste du New York Evening World, pardon, et homme de scène durant la dernière décennie du XIXe siècle. Or, symptomatiquement, Fantasmagorie paraît mettre en jeu une filiation possible avec les films de Blackton. Outre le titre du film, empruntant peut-être involontairement à la traduction française d'un autre film de Blackton qui s'appelle The Haunted Hotel, puisque la traduction française c'est L'hôtel hanté, Fantasmagorie épouvantable, la première expérience de dessin animé de Cole repose sur un topos déjà à l'œuvre, principalement dans Humorous Faces of Funny Faces, celui de la main du dessinateur filmée en prise de vue réelle, créant la figure graphique destinée à s'animer. Alors, je vais vous montrer le début de Humorous Faces of Funny Faces pour que vous voyez un petit peu la corrélation. Voilà. Alors, le film continue évidemment, mais je vais m'arrêter là. Ce qu'on a observé ici, c'est bien cette même idée de cette main interventionniste, hein, qui arrive pour dessiner les personnages, puis intervenir encore à la fin. Et c'est là le second point problématique de l'attribution honorifique du titre premier dessin animé à Fantasmagorie. C'est tout simplement que ce film ne peut être considéré comme le premier de sa lignée, simplement parce qu'il est, avant même l'invention de sa propre catégorie filmique, un objet hybride, c'est-à-dire mêlant prise de vue réelle et dessin, c'est-à-dire une forme impure de dessin animé. Ce constat destitue donc d'emblée Fantasmagorie de la prétendue pureté originelle conférée par son statut, celle d'un régime de représentation qui ne contiendrait aucune autre trace d'un autre régime de représentation et qui présupposerait, dans l'idéal, une vision définitionnelle et téléologique visant à faire de l'objet concerné la forme canonique de la catégorie qu'il inaugure. Pourtant, c'est bien la présence de cette main créatrice en prise de vue réelle qui conditionne l'acte de naissance que les commentateurs ont pu déceler dans cette première expérience paradoxale. Cette communication se donne donc pour objectif de comprendre en quoi la rémanence de l'acte de création, héritière des performances scéniques des Lightning Sketches, destitue Fantasmagorie de son statut de premier dessin animé, tout en inaugurant paradoxalement un affranchissement du dessin vis-à-vis de la prise de vue réelle, et donc les conditions de définition d'une catégorie à part entière, une catégorie cinématographique à part entière, dont l'œuvre de Cole permet de tracer les contours et d'interroger l'essence rétroactivement. Dans un premier temps, nous cherchons à comprendre la façon dont Cole détourne l'héritage blacktonien en faisant de la main créatrice une condition libératrice du dessin. Puis il s'agira de mettre en évidence que cette rémanence de la main est pourtant la marque d'un indéniable joug de la prise de vue réelle emprisonnant Cole dans une production de films hybrides. Enfin, nous tâcherons d'analyser ce double mouvement problématique à l'aune de l'origine impure et ontologiquement complexe du dessin animé, témoin de son inessentialité historique et de son indéniable résistance définitionnelle. Donc, premier temps de la réflexion, que j'ai intitulé « De Blackton à Cole, un héritage détourné ». À la découverte du film de Cole, il est tout à fait légitime de se demander si la trace de l'acte de création, à l'origine des figures qui s'animent à l'écran, n'est pas également la trace d'un héritage cinématographique, une inspiration inavouée pour le réalisateur, prétendant pourtant dans tous ses entretiens avoir été le premier à faire l'expérience d'animation de dessin. Si rien ne nous permet d'affirmer avec certitude que les trois essais graphiques de Blackton fussent connus en France dès 1907-1908, il est toutefois possible de soupçonner. Léon Gaumont aurait en l'occurrence été extrêmement frappé par The Haunted Hotel, film animant non pas des dessins mais des objets, donc un autre film de Blackton, au point d'en acheter plusieurs copies à la branche française de la Vitagraph, société de production du film, afin de les distribuer par le biais de sa propre firme. Émile Coll, qui travaillait pour Gaumont à cette époque, aurait par ailleurs, selon Étienne Arnaud, réalisateur lui aussi chez Gaumont, été le premier à comprendre le principe technique d'enregistrement des objets image par image, frame by frame, utilisé par Blackton, fonctionnant sur une systématisation d'un autre principe qui est celui de l'arrêt caméra ou stop motion, dont le principal représentant n'est autre à l'époque que Georges Méliès. À défaut d'une inspiration subite, peut-être pourrions-nous plus entrevoir une réappropriation consciente d'un truc cinématographique et son application à peine détournée au domaine du dessin. Ajoutons surtout à cette connaissance avérée du film de Blackton, encore une fois, l'indéniable écho visuel que Fantasmagorie trace entre la main filmée de Coll et celle de Blackton ouvrant 2 ans auparavant ses Humorous Faces of Funny Faces. Pourtant, cette ressemblance de départ entre les deux films reste, en dépit des apparences, assez superficielle, ce qui explique qu'elle était très vite dépassée par les historiens, cherchant à démontrer la différence essentielle entre les films du britannique et ceux du français. Ce qui pourrait passer pour un héritage ou une influence est en effet d'emblée détourné, au sens où le personnage dessiné par Coll s'éloigne très clairement de la perfection graphique formelle des figures de Blackton, dont la rondeur et la précision n'ont d'égal que la rapidité d'exécution. Ici, Coll ne fait pas montre d'une dextérité scénique de dessinateur express, préférant mettre en forme un personnage proche de dessins d'enfants simplifiés, le traçant à partir de bâtons. On voit bien la différence, évidemment, entre les deux figures qui sont tracées. La main en prise de vue réelle ne vient donc pas faire la démonstration d'un savoir-faire, à l'image de celui que l'on peut apprécier chez Blackton. En revanche, elle confirme et accentue, à mes yeux, ce que ces films sous-tendent déjà, c'est-à-dire la dépendance des figures dessinées à l'instance créatrice qui les a informées sur le papier ou sur le tableau. Du côté de Blackton, il n'y a en fait pas vraiment lieu de différencier le dessin qui s'anime de la performance créatrice de l'artiste qui lui précède, au sens où le premier est pensé dans la continuité du second, selon la même logique de présentation en temps réel d'une création en mouvement, avec ou sans trucage. Le dessin animé par la projection cinématographique n'est finalement rien d'autre qu'un lighting sketch amélioré, et commence, comme l'explique Linda Neal, là où la performance du musical s'achevait nécessairement, en donnant à l'artiste le pouvoir magique de l'animation. Fin de citation. Du côté de Coll, cependant, les choses se compliquent. Délaissant la performance et la démonstration graphique, Fantasmagorie se détache d'un simple lighting sketch revisité et révèle un décalage certain, voire une opposition, entre la prise de vue réelle et l'animation de dessin. Paradoxalement, il est assez étonnant de constater la volonté évidente, mais méthodologiquement douteuse, chez certains historiens et théoriciens, d'envisager les premiers essais cinématographiques colliens en rupture radicale avec les premières expériences blacktoniennes. Roland Cosandet affirme par exemple que le réalisateur, je cite, « anime d'emblée le dessin en supprimant l'artiste ou la main, qui figure encore dans les lighting sketches de Stuart Blackton ou ses Humorous Faces ». Fin de citation. Gianalberto Bendazzi, pour sa part, appuie encore cette idée. Je cite, dans son souci de vraisemblance, le cinéaste d'outre-Atlantique avait toujours prudemment introduit la présence d'un monde dessiné à côté d'un monde réel. Le français, au contraire, plongea immédiatement dans un univers graphique et donna vie à des aventures de figurines qui avaient déjà l'autonomie de personnages véritables. Fin de citation. Sébastien Denis, pour continuer, va également dans le même sens en écrivant, je cite, que l'univers graphique vaut désormais pour lui-même et non plus seulement à côté du monde réel, comme dans les tours de magie. Fin de citation. Tous ces propos pourraient se tenir si Coll avait entamé sa filmographie par des œuvres telles que Le cauchemar du fantoche ou Un drame chez les fantoches, tous les deux réalisés en 1908 après Fantasmagorie, et se passant à la différence de celui-ci de la présence de la main. On voit donc à quel point cette idéalisation de l'œuvre de Coll comme acte de naissance du dessin animé moderne nécessite de passer sous silence la nature hybride de son premier film. Cosandet, Bendazzi ou Denis n'ont pourtant paradoxalement pas tout à fait tort dans le fond de leurs propos, mais l'angle mort que constitue pour eux Fantasmagorie les amène à un oubli fondamental, à savoir la manière dont se joue pour Coll la tendance vers cette autonomie de la technique de l'animation, qui est décrite par les trois. À nos yeux, l'hybridité de ce premier film conditionne en effet l'existence même des deux suivants, donc ces deux-ci, et ce pour des raisons à la fois économiques et esthétiques. En effet, le principe des dessins animés image par image n'a pas encore été imaginé par Coll lorsqu'il entre chez Gaumont en 1908. Le metteur en scène présente alors son idée à Léon Gaumont sous la forme d'une courte expérience qui doit encore faire ses preuves auprès du public. Il y a donc peut-être quelque chose de l'ordre de la précaution visuelle dans cette juxtaposition de la main analogique et du dessin animé, une garantie que le film s'inscrive dans une tradition. Placer Fantasmagorie dans la lignée de Blackton ou de Méliès, en en faisant un film à truc traditionnel, était sans doute un moyen adéquat pour introduire la nouveauté technique de l'image par image auprès du public français. De ce point de vue, le dessin animé et son évolution dépendraient donc de la prise de vue réelle, ils seraient économiquement et concrètement liés. Cependant, dans Fantasmagorie, l'évacuation rapide de la main à l'écran et la volonté du cinématographiste d'inventer une fiction métamorphique qui éloigne progressivement et totalement la figurine de départ de sa forme originelle procure à nos yeux une impression d'émancipation du dessin. Cette idée se confirme entre autres à l'analyse des premières secondes du film, dont l'hybridité manifeste tend à dissimuler une hétérogénéité pourtant évidente. Lorsque le cinématographiste trace sous nos yeux le petit fantoche de carbone, celui-ci est encore immobile, et il faut attendre que l'instance créatrice sorte du cadre pour que la prise de vue sorte du cadre pour que le personnage se voit doté de vie. En d'autres termes, le dessin de départ, celui qui jouxte la prise de vue réelle, n'a rien d'un dessin animé et ne diffère ainsi en rien de la main analogique qui en détermine la forme et l'identité graphique. Le fantoche des premières secondes de Fantasmagorie n'est rien d'autre qu'un dessin fixe filmé en prise de vue réelle, une rémanence analogique de l'acte de création cinématographié. On s'en aperçoit grâce au changement brutal de régime de captation de la caméra, qui n'est ainsi pas dénué de sens, puisqu'en s'animant image par image, le dessin de départ échappe à sa condition d'origine, celle d'un tracé concret et stable filmé en prise de vue réelle. Je vous montre très rapidement ce passage pour que vous voyez par vous-même. Faites bien attention au moment où la main sort du cadre, vous allez vous apercevoir qu'il y a une rupture dans la prise de vue. On voit bien qu'on passe d'un régime de captation à un autre. Donc la métamorphose perpétuelle qui s'ensuit apparaît alors comme une farouche volonté d'émancipation de cette forme de départ, figée dans la réalité de sa condition photographique. Nicole Brenez confirme d'ailleurs cet objectif pour le fantoche, je cite, « de toujours échapper aux déterminations, de s'affranchir de la gravité, de l'identité, de la stabilité ». Fin de citation. Toutes ces notions qui désignent sans détour la ligne ou encore le trait réel, immuable, celui qui détermine le personnage avant qu'il ne se mette à bouger, à s'animer, celui dont le spectateur découvre d'abord la conception. C'est d'ailleurs le but de la main, que je cite toujours Nicole Brenez, que de créer sous forme de figurine enfantine une incontrôlable énergie de libération. Fin de citation. C'est-à-dire de tenter de délier le trait de ce qui le détermine nécessairement, son créateur, ou métonymiquement, la prise de vue réelle. Le terme de libération n'est pas anodin, au sens où nous assistons bien ici à un affranchissement. Cole annonce sans détour un fossé ou encore un éloignement entre nos deux régimes de représentation, en représentant ce personnage qui, par diverses phases métamorphiques, se détache progressivement de sa forme initiale. En d'autres termes, Fantasmagorie envisage la prise de vue réelle et l'animation de dessin comme deux techniques à part, à la différence d'un Blackton qui, de son côté, présente l'animation de dessin comme la continuité logique de sa performance graphique en temps réel. Là où chez Blackton, les deux régimes de représentation s'imitent, voire se conjuguent, ils tentent à se détacher ou à se diviser chez Cole. Or, paradoxalement, ce désir d'émancipation du dessin comme forme animée indépendante de la prise de vue réelle ne peut se concevoir que dans la forme hybride proposée entre autres par Fantasmagorie. Ce n'est finalement qu'en constatant concrètement l'impossible conciliation entre les deux que nous pouvons entendre la volonté d'autonomisation de l'animation que dessinent à leur manière les films de Cole. C'est ce qui m'amène à mon second point, donc, mon deuxième point, un pionnier prisonnier. Le second passage évocateur de Fantasmagorie arrive en miroir du premier dans les dernières secondes du film. Alors qu'il vient de tomber d'un immeuble, rappelez-vous, le petit fantoche se brise en deux contre une ligne qui l'attend en bas du cadre. Les mains du dessinateur refont alors irruption pour réparer le personnage en fixant ses deux parties rendues inertes par la fracture. À peine guérie, la figurine se met à enfler et s'envole, déliée de la surface criminelle du sol, pour atterrir sur un cheval destiné à l'emmener vers de nouvelles aventures. Ce court passage est à mes yeux révélateur du problème que j'essaye de soulever. Aussi libéré et autonome qu'il a pu paraître pendant la première partie du film, le fantoche révèle ici sa dépendance inconditionnelle à la prise de vue réelle, c'est-à-dire aux mains mêmes qui l'ont créée. Preuve de cette ambivalence, le but de la main n'est pas seulement, selon Nicole Brenez, de créer sous forme de figurine enfantine une incontrôlable énergie de libération, mais également de la secourir en cas d'accident. Encore une fois, la rémanence de la main est une caution, c'est-à-dire une sécurité, qui renvoie par extension à l'idée de prudence ou encore de vraisemblance esthétique, héritière du principe de film à truc méliessien ou blacktonien. Ce qui ressort de cette fin, c'est l'impression que l'animation de dessin doit trouver ses marques pour s'autonomiser, ce qui arrivera en l'occurrence, par exemple, avec Le cauchemar du fantoche ou Un drame chez les fantoches, mais que cette autonomisation est malgré tout dépendante de la prise de vue réelle qui peut venir à son secours le cas échéant. En d'autres termes, malgré l'émancipation ou l'affranchissement du fantoche dans Fantasmagorie, la prise de vue réelle apparaît comme une condition nécessaire à la réalisation des films à trucs usant de l'animation de dessin. Or, ce constat permet de réinterpréter l'hétérogénéité esthétique que l'on retrouve à l'image de cette première expérience juxtaposant deux régimes de représentation, que l'on retrouve donc dans la majeure partie de l'œuvre connue du cinématographiste. Cette alternance entre les régimes d'image étant le signe apparent d'une mixité que certains commentateurs ont assimilée à l'œuvre du Cole caricaturiste, celui de la fin du XIXe siècle, d'aucuns ont cherché à y voir la manifestation filmique de la liberté anarchique qui caractérisait déjà ses créations antérieures. En fait, je souhaiterais tempérer cette vision qui, si elle n'est pas dénuée de pertinence esthétique, nécessite une recontextualisation pour rendre compte du relatif contresens auquel elle s'expose. L'hybridité évidente des films de Cole et leurs rémanences analogiques ne sont en effet pas tant la résultante d'une liberté artistique totale du cinématographiste que d'une contrainte imposée par le désir de rendement des producteurs avec lesquels ils travaillent. Comme l'explique Valérie Vigneault, je cite, « Puisqu'il était payé en fonction de la longueur du métrage, c'est-à-dire de la durée du film, et que les séquences animées étaient aussi chronophages que difficiles à réaliser en raison de leur création image par image, ces séquences dessinées et ces objets animés étaient habituellement intégrés dans un métrage en prise de vue réelle. » Fin de citation. Autrement dit, cette prétendue signature esthétique de Cole n'est peut-être pas simplement le choix d'un artiste cherchant à transposer sa vision poétique à un nouveau domaine, il s'agit en un sens du sacrifice d'un créateur se confrontant à la nécessité d'une production en série afin de pouvoir vivre de ses créations. Cette notion de sacrifice est d'ailleurs exprimée par Cole lui-même, qui déplore ce désir d'efficacité au détriment de la qualité dans son article du Larousse mensuel d'août 1925 sur les dessins animés. Je le cite, donc Émile Cole, « Les dessins de ses premières bandes avaient le mérite d'être extrêmement souples à la vision. Ils se dégageaient de l'ensemble un moelleux que l'on dut sacrifier un peu plus tard lorsqu'on voulut économiser le temps nécessaire à la confection des dessins. » Fin de citation. Entendu en ce sens, la prise de vue réelle se révèle être un moyen de concilier la confection de passages animés de qualité avec une rapidité d'exécution permise par la division du temps du travail. Cole ne pourrait-il pas alors être envisagé comme un pionnier de l'animation cinématographique, prisonnier des contraintes de production du cinématographe, ergo de la prise de vue réelle? Les raisons du départ de Cole de la Gaumont étaient sans doute multiples, mais Cole paraît surtout en quête d'un moyen de réaliser des bandes animées de qualité en se passant du même coup d'une prise de vue réelle emprisonnante, dont la rémanence constituait la trace concrète de son manque de temps de production. De fait, l'évolution de sa filmographie parle d'elle-même, délaissant progressivement les films à trucs, jouxtant animation et prise de vue réelle, pour leur préférer une production exclusivement tournée vers le dessin animé, en particulier aux États-Unis, délestée donc de toute rémanence analogique. Du même coup, ce constat permet de relire l'interprétation auteuriste des films de Cole pour en réinventer le désir libertaire et anarchiste censé les constituer. La mixité contrainte de ces films laisse entrevoir non plus l'affirmation d'un amalgame entre deux régimes de représentation hétérogènes, comme chez Blackton par exemple, mais plutôt le lieu d'une séparation, faisant de la prise de vue réelle la trace d'un emprisonnement dont le dessin chercherait à se libérer pour mieux définir les contours d'une catégorie encore en voie d'émergence. Cette séparation serait donc la condition de définition de cette catégorie, tendant à se scinder du corps cinématographique dominant fondé sur l'hégémonie technique de la prise de vue réelle. Ce qui m'amène à mon troisième et dernier temps, esquisse d'une contre-ontologie du dessin animé. Si, comme le signale à raison André Gaudreau et Philippe Gauthier, pour la période dominée par la cinématographie attraction, il n'est absolument pas nécessaire ni fondé de distinguer l'animation et les séries culturelles correspondant à ce que nous pourrions appeler cinématographie, au sens où les dessins animés des débuts n'étaient rien d'autre que des films à trucs améliorés, il semble que l'œuvre d'Émile Cole soit en revanche le lieu d'une transition. Débutant dans les premières années du processus d'institutionnalisation du cinéma, Cole inscrit en effet sa production dans un mouvement particulier de l'industrie cinématographique. Y envisager une différenciation naissante entre le dessin animé et la prise de vue réelle n'est donc pas totalement anachronique, même s'il est tout à fait envisageable que Cole n'ait pris conscience de la signification de cette différence que bien plus tard, dans les années 1910-1920, lui permettant de réinventer discursivement sa propre invention en lui offrant la cohérence que l'on peut aujourd'hui y déceler. Néanmoins, si Cole a pu lui-même ainsi réinventer son œuvre, c'est bien que celle-ci contenait en germe les traces esthétiques de ce processus de définition du dessin animé, principalement basé sur son affranchissement de la prise de vue réelle. À moins que celle-ci ne reste malgré tout la condition d'être de cette catégorie, ce que Fantasmagorie, premier dessin animé, en dépit ou en raison de son hybridité, tendrait à sous-tendre. Lorsque Cole, lors d'une conférence donnée à un ciné-club en 1920, définit le dessin animé comme étant le père du cinématographe, Il opère en l'occurrence un étrange renversement par rapport à ce que montre son premier film animé dans lequel, pour reprendre les termes d'Hervé Joubert-Laurencin, le cinématographiste se met en scène personnellement dans le rôle d'Hector soulevant Astyanax et se figure donc, avant tous les autres, père de son propre Toon. Fin de citation. Ce renversement est pourtant logique, Kuhl ne faisant rien d'autre que rappeler les origines techniques d'un dispositif hybride, héritant aussi bien de la photographie que des jouets optiques du XIXe siècle, zootropes, praxinoscopes, phénakitiscopes, théâtre optique, etc. C'est-à-dire de séries culturelles diverses permettant d'animer des dessins. Cependant, lorsque le réalisateur insiste en précisant que le dessin animé repose, je cite, « sur la décomposition schématique d'un mouvement et que c'est en somme le schéma des images du ciné ordinaire », fin de citation, il invite clairement à penser le dessin animé comme un outil analytique permettant de mieux comprendre le dispositif cinématographique qui en conditionne l'existence, reposant non plus sur l'enregistrement du réel, mais bien sur la captation-restitution du mouvement, que celui-ci soit naturel ou artificiellement recréé, comme c'est le cas dans les dessins animés. En conséquence, l'animation serait l'essence même du cinématographe, sa dimension photographique n'étant en effet qu'une manière parmi d'autres de concevoir les images en mouvement. Comme le rappelle régulièrement André Gaudreau, durant la période de la cinématographie attraction, « Animation is cinematography and cinematography is animation ». Ce qui incite sans doute Cole à jouer dans plusieurs de ses films avec ses régimes de représentation en brouillant leur origine impure, c'est-à-dire inessentielle. À l'image du paradoxe connu de l'œuf et la poule, nous ne pouvons alors vraiment y déceler qui, de la prise de vue réelle ou de l'animation, précède l'autre, alors que cette dimension originaire est indispensable à toute entreprise de définition ontologique. Les fantaisies d'Agenor Maltracé en 1911 débutent ainsi comme fantasmagorie sur un écran noir, sauf que la main ne vient plus tracer le personnage, mais poser un œuf, vous allez vous en apercevoir, lui donnant naissance dans les premières secondes. Voilà, on voit bien que ça provient effectivement d'un œuf. Donc comme un écho en fait au film de 1908, ce début en éclaire la dimension d'acte de naissance, faisant de la prise de vue réelle le lieu de l'éclosion littérale du dessin animé. De la même manière, un an auparavant, dans l'enfance de l'art, on s'aperçoit de quelque chose d'assez similaire. Une main en prise de vue réelle va ici laisser sur l'écran une trace à partir de laquelle l'animation se met en route, comme pour faire de la rémanence de la main créatrice l'origine anhistorique et essentielle du dessin, le début du film se passant, c'est sans doute pas un hasard, à la préhistoire. Donc voilà, on voit la main qui laisse effectivement une trace. Et c'est de la trace que va naître l'animation. Pourtant, cette vision est constamment malmenée par Cole, qui, la même année, réalise par exemple Les Beaux-Arts Mystérieux, film présentant des peintures réalisées par des outils graphiques animés image par image, c'est-à-dire se passant de la rémanence analogique de la main démiurgique, et culminant par la transmutation du paysage dessiné en son équivalent en prise de vue réelle, comme si celui-ci était l'aboutissement du dessin et non plus son point de départ. Voilà. On voit bien comment ici, c'est effectivement le dessin qui donne naissance à la photographie, à la photographie animée. Cette idée est également perceptible, avec plus d'évidence encore, dans l'un des segments de « Rien n'est impossible à l'homme », datant de la même année, présentant un caméraman dessiné filmant des acteurs en prise de vue réelle, comme si le dispositif d'enregistrement des images était finalement héritier du principe de l'animation, voire conditionné par lui. Donc là, quand Amy Cole dit que le dessin animé est le père du cinématographe, ça transparaît quasiment visuellement. Cette versatilité du discours de Cole permet en l'occurrence de comprendre que l'ontologie du dessin animé, tout comme l'ontologie de l'animation, ne peuvent se penser que comme une contre-ontologie. Il ne s'agit finalement pas de retrouver l'essentialité de ces formes d'expression artistique, mais plutôt de la perdre, car ce que la rémanence de l'acte de création chez Cole nous apprend, c'est que le dessin animé est fondamentalement inessentiel, hybride et protéiforme, c'est-à-dire une manifestation plastique éminemment contextuelle. Précédant chronologiquement l'invention des Frères Lumière lorsqu'il n'est encore qu'une technique ludique, s'illustrant par le biais des diverses séries culturelles déjà citées, ce n'est que tardivement qu'il rattrape le train de l'institutionnalisation du cinéma pour devenir cette catégorie cinématographique que nous connaissons tous. L'expression générique « dessin animé » n'apparaît par exemple pas avant 1911 en France, et ce n'est que dans les années 1950 qu'elle intégrera la sphère rétroactive du cinéma d'animation, institutionnalisée plus de 50 ans après ses premières occurrences chronologiques. En d'autres termes, il semble que la rémanence de la prise de vue réelle dans ses premières expériences animées doivent nous inciter à penser l'œuvre de Cole, en particulier Fantasmagorie, simplement comme un moment charnière de l'histoire du dessin animé, et non pas comme l'acte de naissance officiel et définitionnel d'une catégorie cinématographique qui ne peut finalement guère naître, ne se définissant que par son affranchissement progressif vis-à-vis d'un grand frère aussi économiquement protecteur qu'esthétiquement emprisonnant. Pour conclure, nous pourrions dire que c'est finalement tout l'enjeu d'une historiographie du dessin animé, comme forme statutairement autonome, que d'en relever les conditions d'émergence à mesure que les cinématographistes le pratiquent. Émile Cole n'a ainsi pas inventé le dessin animé, au sens où, pour pasticher l'expression d'André Gaudreau, le dessin animé, ça ne s'invente tout simplement pas, ça se constitue, ça s'institue, et éventuellement ça s'institutionnalise. En revanche, Cole a sans nul doute posé de nouveaux jalons à ceux déjà établis par Blackton dans le cadre de la disparition progressive de la prise de vue réelle dans le dessin animé. Et c'est bien cet affranchissement qui permet d'envisager la définition de cette catégorie cinématographique échappée des films à trucs, trouvant ce qui constitue sa nomination française définitive en 1911, lorsque sort sur les écrans, ironie du sort, un film américain, Little Nemo, réalisé par Winsor McCay, distribué sous un titre aussi peu précis que programmatique, Le dernier cri des dessins animés. Merci de votre attention.